comme disait je sais plus quel acteur dans le film de Lelouch, l'aventure c'est l'aventure. La politique, c'est du show business. Alors, revenons un instant sur sur Zemmour pour faire plaisir à Jean-Claude. Non, ce qui est très très étonnant chez Zemmour, ce sont les supporters en fait, ou ceux qui aiment son discours, qui trouvent évidemment ce qu'il dit qui n'est pas forcément vrai, mais qu'est-ce qu'ils disent ? C'est pas grave, c'est le jeu. Écoutez cette demoiselle qui était interviewée avant un débat organisé à Paris il y a quelques semaines, un débat qui avait lieu avec Zemmour et Onfray. Hein, c'était il y a quelques semaines, ouais, vous en souvenez. Ouais, ouais. Il y avait eu un discours à Paris, enfin un discours, une soirée où ils étaient tous les deux à débattre. Et écoutez ce que disait cette fille.
Ce que je veux dire, c'est que c'est que des informations qui sont très exagérées ou fausses. Est-ce que ça, c'est de la part d'hommes bientôt politiques ou d'intellectuels, c'est des choses qui nous choquent ou en fait ça lance le débat et c'est pas grave?
Moi, je pense que c'est important quand on se présente en politique de dire des phrases choc.
Et c'est pas grave si elles sont pas vraies?
Bah, de toute façon, la politique, c'est ça, c'est comme la pub, c'est comme tout, la séduction, enfin, faut mentir, quoi. Il faut savoir être gros sabot parfois, aller à fond dans ce qu'on pense, voire exagérer, c'est pas grave.
D'accord. Et vous avez pas l'impression que dans le débat public, du coup, les gens vont débattre de choses fausses et que ça peut... Ouais. Ah, il faut choquer quoi. Enfin, en tout cas.
Oui, bah il faut. Il faut dire des énormités, oui, pour choquer et réfléchir à ces choses-là.
Mais
oui,
ça fait avancer le débat selon vous
Oui, parce que quand on dit des choses banales et consensuelles, tout le monde finit par être un peu d'accord. Donc c'est pas ça la politique, je pense.
Voilà. C'est pas ça la politique. La politique, c'est mentir. C'est non, très étonnant quand même.
Non, mais elle pose un vrai problème. La politique, c'est quoi? La politique, c'est un projet. C'est une rencontre d'un homme et d'une femme avec la nation.
Oui.
Et c'est un projet. Qu'est-ce qu'on propose aux Françaises et aux Français. J'entends rien, quoi. J'entends des attaques. Les LR, ils attaquent Macron, ils les traitent de tous les noms. Comme dit Loulou, peut-être un jour, ils seront ministres.
Ils seront contents d'être au gouvernement.
Et donc aujourd'hui, c'est une espèce de campagne médiatique, mm-hmm. où c'est celui qui tape le plus fort sur l'autre. Mm-hmm. C'est un genre, une jungle. Ce matin, ils utilisaient le terme de jungle.
Ouais.
Ça me va bien, ce terme. La politique est devenue une jungle. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est un projet pour le pays. Qu'est-ce qu'on propose dans les 5 ans à venir pour changer les choses et faire que les gens vivent mieux dans notre pays?
Loulou, apparemment, il n'y a personne aujourd'hui qui avance un vrai programme.
Non, c'est pour ça que, et c'est vrai, sans être désagréable pour personne, la classe politique actuelle, à un certain niveau, est assez médiocre. C'est pour ça que le Zemmour, qui cite Bainville, qui cite quelques grands auteurs, il passe pour un génie. Moi, je connais 100 personnes à Paris capables de mieux citer Bainville.
Mais bien sûr, on est d'accord.
Alors on dit, oh là là, c'est un intellectuel, enfin, l'homme providentiel arrive.
Exactement, voilà, tout à fait. Non, mais tu as raison là-dessus.
Le petit Zemmour, il n'impressionne que les gogos et les gens non cultivés. Voilà. D'ailleurs, souvent... Moi qui lis beaucoup, souvent ces citations sont fausses.
Alors, ce qui est terrible, c'est comme pour la plupart que nous sommes pas forcément super calés en histoire. Tu as raison, on ne connaît pas tout, voilà. Et lui arrive, il te balance des trucs. Si t'es pas forcément au courant, tu vas dire, oh, il a une culture pas possible. Alors que non, il faut vraiment se rencarder. Il faut étudier ça en profondeur et écouter les historiens. Comme par exemple Patrick Veil, que j'ai entendu cette semaine et qui était très intéressant. Écoutez ce qu'il disait.
Ce qui fait la séduction de Zemmour, c'est que il prend certains faits qui sont... Voilà, il dit, De Gaulle revient de Londres à Bordeaux le 16 juin. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il est fort, il le sait, etc. Et après, il dit, il regarde s'il est sur la liste du gouvernement de Pétain et comme il n'y est pas, c'est pour ça qu'il part dans la résistance. Enfin, c'était un crachat sur sa mémoire, sur toute l'histoire de cet homme qui a pris un risque incroyable pour lui, pour sa famille, pour sauver l'honneur de la France. Ouais. Alors, il diminue De Gaulle, il le traite comme un vulgaire politicien, lui qui avait déjà donné des ordres que les bateaux d'armes françaises aillent sur l'Angleterre, etc. C'est toujours pareil. Il prend je l'ai vu sur une chaîne l'autre jour, il démarre en disant l'Allemagne à la fin du 19e siècle, c'est comme la Chine aujourd'hui. C'était une puissance montante, etc. Ah, c'est vrai, c'est passionnant, les gens ne savent pas, oui, c'est vrai. Il dit, qu'est-ce qui fait la force de l'Allemagne? C'est qu'elle n'avait pas de colonies. Ah bon? La Namibie, le Shantung en Chine, le Cameroun, le Togo, etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Mais ce que vous dites, Patrick, les gens s'en foutent.
Mais moi, ce qui se passe,
c'est que
je suis un historien. Je suis un historien et je vois, je dis à tous les Français et qui croient qu'ils savent l'histoire de France, qu'ils la tronquent, qu'ils la manipulent au service de toujours les mêmes idées.
Et Laure Adler, que vous avez entendu, a raison. Les gens s'en foutent. Ils s'en foutent qu'ils disent des conneries, qu'ils mentent, qu'ils réinventent l'histoire, puisque, en fait, au fond, ils ont les mêmes idées que ceux qui l'écoutent. Donc, pour eux, bah, c'est très bien. Eux pensent que le responsable, c'est l'étranger. Zemmour est un intellectuel qui a beaucoup de culture. Donc, il le dit. Donc, il a raison. Donc, bah, je vais voter pour Zemmour.
Alors, je pense pas qu'ils vont interpréter les choses comme ça. Pardonnez-moi, je prends la parole. Ce que Louis vient de dire... Effectivement, les gens instruits, cultivés, ils peuvent effectivement revenir sur ce que Zemmour dit, mais les trois quarts des gens savent qu'ils sont ignorants dans le domaine. Sauf qu'ils ont une réalité, ils ont un lien avec la réalité. Et à partir du moment où le quotidien auquel tu es confronté correspond de près ou de loin à ce que Zemmour, à la finesse, effectivement, la subtilité du langage de Zemmour, notamment en référence avec l'histoire, sensibilise l'électorat, en tout cas en ce qui concerne les sondages. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. Si on considère que la France est que des élites, on est plus dans la réalité. La réalité du commun des mortels, c'est celui qui est entre deux, qui a des problèmes, tu l'as dit, hein, des gens qui n'ont pas de gros, ah oui, qui ont plus des soucis du quotidien,
et de la nécessité, enfants,
en disant, moi, j'entends quelque chose qui est dit, je prends que là, et ça, c'est ma réalité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit à droite ou à gauche, on n'entend pas ce discours de la réalité. Là, c'est leur vérité. Leur vérité, la vérité étant subjective comme la morale, eh bien, je suis désolé, moi, je ferai attention, je suis plus sensible à quelque chose qui va m'intéresser parce que je peux le voir, je peux le percevoir et je peux l'analyser, plutôt que d'avoir une sémantique très élaborée qui va toucher une strate qui malheureusement n'échappe pas à la bêtise, la cupidité. C'est pas parce qu'on est instruit, intelligent et érudit qu'on... C'est pas inversement proportionnel. Ça, c'est désolant. Mais c'est désolant. Et parce que si on a que des intellectuels, des gens et des élites, pourquoi on en est là aujourd'hui? Jean-Claude nous dit, il y a 14% de pauvres en France. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on a quand même des gens, et notamment notre histoire avec la France des Lumières et compagnie? Comment ça se fait-il qu'on a 14% de gens pauvres? J'entends toujours, moi, l'État doit apporter. Derrière l'État, il y a quoi? Ben, il y a des entreprises, il y a des gens qui payent des impôts, etc. On n'en parle pas de cela. Et notamment, des gens qui font de véritables efforts, qui font des heures, mais physiquement, parce que s'ils ne font pas d'heures, ils ne gagnent rien. Là-dessus, je suis vent debout contre ça. Je ne peux pas considérer qu'il faut toujours augmenter ici et vomir sur les autres. Indirectement, c'est ce qu'on fait, sauf si, à un moment donné, on apporte des éléments de réponse pour trouver un équilibre. Moi, je le ressens comme ça. C'est un ressenti, c'est une...
Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean-Claude. Oui, je ne pense pas que Zemmour soit anti-républicain. Parce qu'il serait anti-parlementariste, il serait... Non, mais c'est un type qui veut faire le buzz, qui veut qu'on parle de lui. Et il a réussi, d'ailleurs, avec la complicité des médias. La chaîne C8, par exemple, qui ne roule plus que pour Zemmour.
Ah bah oui, il a sa chaîne.
Quand je dis qu'il n'est pas républicain, c'est qu'il développe un discours de haine.
Ah oui,
c'est ça que je veux dire. Et la haine, dans une république, normalement, c'est quand même pas ce qu'on devrait développer. Après, ce que dit Michel, moi, je ne demande pas tout l'État. Hein. Je pense qu'en matière de... D'ailleurs, on accueille notre ami...
Pierre-Louis qui vient d'arriver, parce qu'il avait une dure journée. Mais c'est pas grave.
Je pense qu'il ne faut pas, effectivement, attendre de l'État. Aujourd'hui, ce que je dis toujours, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des négociations interprofessionnelles pour faire en sorte que les conditions de travail des gens, qui sont les emplois du lien, puisqu'on en a parlé avant que tu arrives, Pierre-Louis, notamment les aides à domicile et compagnie, que ces emplois soient beaucoup mieux traités que ce qu'ils sont traités. Souvent, je donne un exemple. Quand je suis arrivé là où je travaillais à Marseille, je m'étonne en disant, mais vous faites faire le ménage... à quelle heure vous? Parce que j'arrive le matin, les poubelles sont vidées, je pars le soir, les poubelles sont pleines, ça veut dire qu'ils viennent travailler la nuit, là.
Ouais.
Je dis, mais est-ce qu'on pourrait pas admettre, une fois pour toutes, que ce ménage se fasse pendant le temps de travail? Et du coup, mon patron, il m'a compris, il m'a dit, mais bien sûr, Et du coup, le ménage se faisait pendant le temps. Et ça ne nous gênait pas que les femmes de ménage, plutôt que les faire travailler la nuit dans des conditions déplorables. Je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces emplois du lien dont on parlait avant que Pierre-Louis arrive. Et c'est pas très compliqué. C'est pas à l'État à le faire, ça.
Ouais.
C'est dans le cadre des négociations interprofessionnelles entre salariés et employeurs.
Eh ben, ça tombe bien. Ce sujet arrive au moment poil où Pierre-Louis arrive. Effectivement. Le ménage, c'est important. Et moi, je crois savoir que tu as mis en place ça, puisque je me souviens, et ça date pas d'aujourd'hui, il y a quelques années, tu m'as appelé, tu m'as dit, Thierry, est-ce que tu penses que ce serait possible que, au lieu de faire donc le ménage le soir, on puisse le faire un peu plus dans la journée? Et je t'avais dit, bah oui, bien sûr, pas de problème.
Alors, ça va manquer de modestie, mais c'est vrai que je fus le premier en France à mettre un dossier sur la table.
Tu étais même passé à la télé.
Mais c'était pas sur ce sujet-là. Mais
non, c'était un autre.
Voilà.
Ça fait un bail. Hein.
Ah oui, c'était début des années 2000.
Tu vois.
Où j'avais. Alors, je le dirais pas avec les mêmes mots parce que ce serait moins approprié, mais j'avais été ému de voir un soir en partant de mon bureau une dame, une collaboratrice qui rentrait chez elle après avoir travaillé. Jusque-là, voilà, moi c'était 21h, elle aussi. Jusque-là, tout était normal, sauf que moi j'avais la chance à mon domicile d'avoir la maman de mes enfants qui s'était occupée de tout.
Et que tu c'est arrivais, pour ça que
j'essaie
tranquille.
De choisir les termes parce que la manière dont je le disais avant, c'était un peu machiste, donc fais attention à ce que je dis. Et je voyais cette dame rentrer chez elle et je me disais, mais qui s'occupe de ses enfants? Alors, en le disant, ça fait machiste, parce que, si elle a un mari, peut-être que c'est lui qui s'en occupe, et que les choses sont pas si simples que ça, voilà, pas de problème de genre. Mais au-delà de la petite boutade et de l'analyse, je me suis dit, quand même, c'est vrai que c'est un peu la double peine pour eux, parce qu'ils n'ont pas des super salaires, ils ne peuvent pas avoir quelqu'un qui s'occupe des enfants, et ils rentrent tard, donc on est dans une spirale d'échec. Et comme dans le même temps, dans notre profession à cette époque-là, on avait imaginé pour essayer de donner une vie un petit peu plus décente en termes de salaire et en termes d'image, de donner d'autres choses à faire que du ménage à nos collaborateurs et nos collaboratrices, on avait imaginé toute une série de petits services qu'on aurait pu rendre à nos clients. Alors quand je dis nous, c'est la profession, c'était pas moi à l'époque avec mon ancienne étiquette, mais et je m'étais dit, mais quoi de mieux pour vendre ces petits services que de le faire en journée? Parce que si vous voulez préparer des cafés, amener l'eau, vous occuper de quelques petits travaux, il faut être là, il faut être à côté du client. D'ailleurs, tous ces petits travaux ne gênent... C'est bizarre, hein, quand on vient te livrer quelque chose, le facteur, quand on vient te livrer ton eau, quand on vient te faire des petits travaux de bâtiment, parce que ça arrive qu'il y ait des pannes, etc.
Bien sûr.
Là, c'est marrant, personne ne gêne personne.
Non.
Mais quand c'est du nettoyage, on gêne.
Ouais.
Mais tout ça, c'est parce que c'est la vieille image d'Épinal. Voilà. Enfin, bon, point de suspension, toujours est-il que ça avait fait son chemin, parce qu'à l'époque, alors c'était un de tes collègues, Pascal Lissy, qui était président, je crois, de la Caisse Primaire Assurance Maladie, qui avait été d'accord pour qu'on prenne ce site-là, dont je m'occupais en nettoyage, pour un site avec cette expérimentation. Et pour la petite histoire, je suis désolé, je vous saoule peut-être, mais ce qui avait été drôle, c'est qu'au départ, on avait contre nous le client. Et Pascal Lissy, il avait été fort parce qu'il avait fait accepter au client qu'on vienne en journée.
Ouais.
Et ceux qui étaient pour la démarche, c'était nos collaboratrices.
Parce qu'elles se disent,
finalement, on va y aller en journée, ce sera plus simple.
Bah oui.
Au bout du bout, donc l'expérimentation, elle a duré, je me souviens plus si c'est un mois ou trois mois. Au bout du bout, en fait, les clients qui étaient contre ne trouvaient pas finalement ça assez embêtant. En revanche, nos salariés y trouvaient des inconvénients. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, elles se sont rendues compte qu'elles étaient obligées de faire un trait sur des petites choses qu'elles avaient le temps de faire en journée qu'elles ne faisaient plus, et parmi
en soirée, tu veux dire, qu'elles faisaient plus.
Pardon, excuse-moi, en soirée, qu'elles ne faisaient plus, qu'elles ne pouvaient plus faire, parce que le fait de travailler en journée, puisque tu travailles plus le soir, il faut que tu travailles en journée.
Mais
donc on venait un petit peu plus tôt, sauf que jusqu'à présent, un petit peu plus tôt, elles avaient des choses à faire et qui étaient aussi importantes pour elles. Et parmi elles, il y en avait aussi qui avaient du travail.
Ah oui.
Et oui. Et donc, ça n'a pas été si simple que ça. Et pour terminer sur cette histoire, il y a quand même une chose qui a été très bien, c'est que quand on est revenu donc à la normale, il y a une dame qui m'a envoyé sa démission, une de nos collaboratrices, et elle disait, j'en ai encore du trémolo dans la voix, c'est vrai. Hein. Je disais, voilà, monsieur Rony, vous rappelez, moi je vous avais dit que j'étais contre ça, et j'ai redécouvert ce qu'était qu'être une mère de famille. Et ma fille, qui me voit maintenant tous les soirs, elle ne veut plus que j'aille travailler. Donc je vais trouver une autre solution et je démissionne de chez vous.
Oui, mais tu vois Pierre-Louis, 20 ans après, je ne sais pas si ça fait 20 ans.
Ah oui, c'est un gros modo.
À la louche, 20 ans après. on pose toujours les mêmes problèmes. Et, ouais. Et je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, mais je t'invite à le faire, Debout les femmes, le dernier film qui vient de sortir, ouais. qui raconte la vie de ces ouais. gens-là, mais pas uniquement des ménages, hein, d'autres
aussi. Oui, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler le soir.
Y a pas, voilà. Ouais. Et moi, parce qu'en plus de travailler le soir ou la nuit, ou le matin très tôt, les emplois du temps sont très morcelés.
C'est ça.
Et la plupart n'arrivent pas à faire les 35 heures. Mmh. Du coup, elles sont payées en dessous du SMIC. Tu vois ?
Ouais, alors, enfin, il y en a aussi qui, grâce à ce système-là, et il y en a beaucoup plus qu'on le croit, disons que c'est la moitié, qui travaillent plus que 35 heures. Mmh. Ce que je veux dire par là, et là, je vais répondre à la question, je prends le chemin, je prends le fil là, de la discussion, mais c'est, faut pas croire quand même que c'est que la faute des employeurs, que ses collaborateurs et ses collaboratrices aient ce train de boulot comme il est organisé. Parce que, Quand on est chef d'entreprise ou qu'on est un commercial dans une entreprise de propreté, peut-être plus les commerciaux que les chefs d'entreprise, parce que pour être chef d'entreprise, à un moment donné, il a fallu gratter, on sait ce que c'est en principe. Hein, en principe. Mais quand on est un commercial et qu'on n'a jamais gratté et qu'on va vendre une prestation tout de suite, mais quel que soit le métier, on est face à quelqu'un qui a une demande et on va lui présenter du mieux que l'on peut ce qu'on a à lui vendre. Et parmi les exigences, faut le reconnaître, hein, les exigences quand on vend un métier, enfin une prestation de service comme la propreté, ben c'est comme ça, c'est quand ils vont venir, à quel moment ils vont venir et combien ça coûte, ce sont les deux arguments sur lesquels il va falloir faire un gros effort. Mmh. Donc, si tu veux le marché et que tu sais pas dire, bah oui, s'il faut venir quand vous êtes pas là, bah on va le faire, bah t'as des grandes chances de pas avoir le marché. Mmh. Et si, parce qu'on parle des salaires et c'est quand même important, si tu dis, bah oui, mais moi, pour que je paye décemment une personne qui vient de faire la propreté, ça va pas vous coûter 20 euros de l'heure, mais ça va vous coûter 25 euros de l'heure, comme il y en a un qui va arriver à 20 euros, t'auras pas le marché. Voilà. Je dis pas que c'est une excuse suffisante, mais comme on n'est pas dans une profession réglementée, on n'a pas le droit de s'entendre. Mmh. Donc les prix, bah, ils sont libres pour tout le monde. Mmh. Et bon, je vous cache pas que, s'il faut pas trahir de secret, que je pense que cette année, il va y avoir une augmentation des salaires dans notre profession, mais dans plein d'autres professions qui va être conséquente.
J'en suis pas sûr du tout.
Ben, nous verrons bien.
Au contraire, c'est une inflation, donc le pouvoir d'achat des gens va diminuer. Tu es sûrement, toi, un patron très social.
Non, c'est pas moi. Oh là,
mais je voudrais revenir vers Jean-Claude.
Bon, d'accord.
Vas-y. Jean-Claude qui nous dit Zemmour. Bon, Zemmour, il a aucun programme économique. Mais s'il arrive à faire 17%, à mon avis, il rassemble un peu de Français, 17%, parce qu'il parle de la sécurité. Et ça, il faut quand même, tu l'as dit tout à l'heure, il faut quand même constater l'échec. Nous, on vit dans un département qui s'appelle les Hautes-Alpes, qui est merveilleux, il y a une sécurité absolue. Moi, je laisse ma porte ouverte.
Enfin. Bah oui,
mais moi, j'ai vécu quand même, je dirigeais un centre pour jeunes handicapés en région parisienne, au Tarteret, Corbeil. C'était il y a 20 ans, il y avait déjà une insécurité. Et aujourd'hui...
C'est un sujet qui sera mis sur la table, de toute façon, ça c'est clair.
Non, mais c'est sûr, il faut l'affronter le sujet. On ne peut pas le mettre la poussière sous le tapis. Hein. D'ailleurs, c'est pas que je veuille les mettre en avant, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais les maires communistes, il y a un maire communiste de je ne sais plus quelle commune qui a été désigné comme étant le maire...
Oui, de la ville, le meilleur maire de France.
Je ne sais plus d'où.
D'une
commune de la banlieue parisienne. Ils se battent. Les maires, quelles que soient d'ailleurs leurs étiquettes politiques, ils se battent parce qu'ils savent, ils sont en contact. Et ça, c'est une réalité. Oui. On ne va pas dire que ce n'est pas une réalité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille avoir des discours qui développent la haine, le séparatisme. Au contraire, nous, il faut qu'on mette en avant les valeurs de la République. Et moi, c'est ce qui me fait dire que Zemmour n'est pas un républicain, parce que lui, il développe des discours de haine. C'est tout.
Je voudrais qu'on passe à un autre sujet, si vous voulez. Ah, tu avais un truc à rajouter ?
Oui, par rapport à la sécurité. C'est marrant, j'ai un autre avis qu'on m'a fait partager, parce qu'apparemment, c'est une statistique qui vient de sortir. C'est que les Français, pour la première fois depuis de nombreuses années, sont beaucoup plus préoccupés par les problèmes de pouvoir d'achat que de sécurité.
Oui, oui.
Je pense que la sécurité, ça a toujours été un problème. Il me semble, à mon avis, qu'au début du siècle dernier, on était quand même beaucoup moins en sécurité quand on sortait dans la rue, où que ce soit, dans la ruralité ou dans les grandes villes que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a parqué les gens qui sont méchants à des endroits et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent pour qu'on soit tranquille un petit peu dans nos quartiers bourgeois. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire. Hein, voilà. Ou dans nos petites villes sympathiques comme celle de Gap. Mais qu'en revanche, le pouvoir d'achat, il y a un problème. Alors, tu parlais de l'inflation. Mon avis à moi...
Je veux parler surtout, excuse-moi, je veux parler surtout de l'enfumage de Macron après les Gilets jaunes, qui a par exemple délaissé totalement la fonction publique hospitalière. C'est scandaleux le tarif. Et
mais ils sont bien rattrapés là.
Et qui continuent à supprimer des lits. Pendant la crise, ils ont supprimé 6000 lits, il faut quand même le faire. Et en même temps, ils nous disaient qu'ils étaient surbookés.
C'est pour ça que les infirmières ne restent que 5 ans en exercice et elles sont obligées d'aller habiter dans les banlieues très très lointaines parce qu'on ne peut plus se loger dans les grandes villes. Non, ça, Macron n'est pas du tout.
Parce qu'on parle des grandes villes, mais moi j'ai des cas dans les Hautes-Alpes et je suis bien placé pour le savoir parce qu'il se trouve que je suis administrateur d'une association du médico-social que je ne citerai pas, qui a un établissement aujourd'hui qui a deux personnes à recruter, aide-soignante, qui ne trouve pas d'aide-soignante, et qu'on se pose la question de ce qu'on va faire. Mmh. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à accueillir nos personnes âgées handicapées dans notre établissement? Donc il y a aussi un problème d'attractivité des professions, et tant qu'on n'aura pas rendu ces professions beaucoup plus attractives, il faudra du temps pour les former en plus.
C'est un scandale d'avoir vidé celles qui ne se sont pas fait vacciner.
Ah, ça c'est encore un autre problème. Oui, tu parlais des lits qui étaient donc supprimés. Je me souviens à Manosque, il y en avait 8 qui étaient sur la sellette. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques temps. Oui. D'où la fameuse expression que je vous avais donnée à l'époque, il faut sauver 8 lits. Alors,
sujet c'était juste l'inflation parce que sur le médical, ce serait un autre dossier. Enfin, je pense que si on a du mal à trouver des infirmières, c'est pas à peine de laisser des lits si il y a personne pour s'en occuper. Enfin bon, peu importe. En tout cas, pour le sujet de l'inflation, je pense que les plus alertes, les plus avertis sur la problématique de l'inflation, ce sont les banquiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une inertie dans l'inflation, parce que ça vient pas du jour au lendemain. Hein. C'est pas du jour au lendemain que les prix des biens et des services plus les salaires augmentent. C'est ça l'inflation. D'accord. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est progressif. Donc ceux qui doivent prévoir l'inflation, les premiers, parce que c'est comme ça, c'est un enjeu important dans leur métier, c'est les banques. Mmh. D'accord ? Moi, je ne vois pas bouger les banques. Au contraire, ça fait même des années que les taux n'ont jamais été aussi bas, on a même des taux négatifs. Et eux, qui sont quand même beaucoup plus malins que nous, n'augmentent toujours pas leurs taux. Ça veut dire que l'inflation, pour l'instant, c'est un peu comme le loup, quoi. C'est qu'on nous fait peur avec un truc qu'on ne voit pas. Si demain, effectivement, on augmente... Alors j'allais dire anormalement ou normalement les salaires, parce que ça dépend du point de vue de tout un chacun. Effectivement, ça va créer des besoins en plus, tant mieux, parce que les gens ont du pouvoir d'achat, ils vont acheter plus, et s'ils achètent plus, effectivement, ça va faire augmenter les prix, et là, on aura de l'inflation.
Mais tu sais pourquoi on n'augmente pas les taux? Parce que le premier emprunteur, c'est l'État. Si l'État augmente les taux, il est ruiné.
Mais c'est pas aux mêmes banques. Hein.
Oui, je sais bien.
Ouais, c'est pas les mêmes, attention, parce que les banques, elles empruntent à des banques européennes. Et nous, on emprunte à des petites banques. Ouais, mais moi, quand je vais acheter une voiture et qu'on me dit le taux, il est moins d'1% en crédit à la consommation, mais attends, mais moi, j'ai jamais vu ça.
Enfin, sans être banquier, quand on va faire ses courses, quand on paye son électricité, son gaz, on s'aperçoit qu'il y a de l'inflation.
On s'aperçoit surtout que les prix ont augmenté. Oui.